Il fait beau, nous dit la météo de Kathleen Conte tout à l'heure. Mais il fait chaud, trop chaud. Combien de fois l'avez-vous pensé cette semaine? Trop, comme tout le monde. L'épisode caniculaire que nous vivons et les futurs, la journée de lundi est annoncée comme la plus chaude jamais enregistrée en France, nous procure un sentiment d'impuissance. Et pourtant, le secteur des industries fossiles reste un des plus gros producteurs de CO2. Surtout, il est encore largement financé par les États. Alors, quelles actions structurelles devraient être prises à l'échelle locale, nationale, européenne, pour renouveler nos consommations énergétiques ou nos productions industrielles? Comment avoir une chance de limiter le réchauffement à 1,5 degré ou à 2 degrés supplémentaires, comme le préconise le GIEC? Eh bien, pour souligner ces contradictions et évoquer les solutions nombreuses qui existent, nous sommes aujourd'hui avec Christophe Cassou. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes climatologue, directeur de recherche au CNRS et co-auteur du 6e rapport du GIEC, et nous sommes également en compagnie de Magali Regueza. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe et membre du Haut Conseil pour le climat. Alors tout d'abord, Christophe Cassou, quel changement climatique vivons-nous en ce moment? Est-ce que vous pouvez nous expliquer les phénomènes physiques qui se passent actuellement dans la canicule que nous vivons cette semaine?
Alors, nous vivons un phénomène particulier, hein, la combinaison en fait de deux processus qui conduisent à une canicule exceptionnelle. Le premier processus, c'est un anticyclone ou un dôme de chaleur qui se met en place sur l'Europe de l'Ouest et qui contribue à augmenter les températures jour après jour. C'est ce qu'on a vécu en début de semaine. Et ensuite, on a l'effet d'une petite dépression qui se cale au large du Portugal ou de l'Espagne et qui, par un effet d'entraînement, transporte de l'air chaud du Sahara ou de la Méditerranée vers l'Espagne, vers la France, pour donner ces températures extrêmes que l'on va vivre à partir de dimanche et en particulier lundi avec, comme vous l'avez annoncé, une probabilité très forte d'avoir la journée la plus chaude jamais enregistrée par Météo France depuis les années 1945.
Mmh. Est-ce que cette canicule était prévisible? Est-ce que celle que nous vivons donc actuellement est différente de celle que nous avons vécue au mois de juin?
Alors celle que nous vivons actuellement combine en fait les deux processus que je viens d'énoncer. Celle du mois de juin était pilotée par cette petite dépression, cette plume de chaleur qui se développait du Sahara jusqu'à aujourd'hui. En fait, ce que nous vivons aujourd'hui, hein, c'est l'effet direct du réchauffement climatique, parce qu'on a bien montré dans le dernier rapport du GIEC qu'il existe un lien évident entre le réchauffement climatique et les changements, alors des statistiques des événements extrêmes, hein, et en particulier ces vagues de chaleur. Aujourd'hui, elles sont plus fréquentes, elles sont plus intenses, elles durent plus longtemps. La saisonnalité des canicules, c'est-à-dire la plage de l'année où ces canicules se développent, change, avec aujourd'hui des canicules qui sont plus précoces. Et aujourd'hui, on en a deux exemples, hein, la canicule de juin dernier et puis la canicule en cours.
Quelles sont les conséquences de ces variations de température sur les productions, les ressources et aussi pour nous les humains là, cette année, en 2022?
Alors, les conséquences sont toujours très, des canicules sont toujours très, très importantes, en particulier sur, en termes sanitaires, avec une hausse de la mortalité et de la morbidité liée aux vagues de chaleur. Les canicules sont également importantes sur les rendements agricoles, en particulier cette année où elles se combinent à des sécheresses, à une sécheresse qui est persistante quasiment sur l'ensemble du territoire. Importante également en termes de qualité de l'air, en particulier dans les villes, où ces canicules sont associées à des pics de pollution et entraînent donc des problèmes respiratoires chez les plus vulnérables. Mmh. Les conséquences sont nombreuses également sur d'autres secteurs, en particulier sur l'énergie, avec une tension sur la production d'hydroélectricité due à la sécheresse, production d'électricité en général. Donc on voit que les tensions ou les risques générés par ces canicules sont systémiques et affectent l'ensemble des postes de notre faire société.
Mmh. Magali Regueza, on a l'impression que depuis 2003, peu de mesures n'ont été vraiment prises. 2003 parce que c'est l'épisode caniculaire qui avait provoqué entre 15 et 20 000 disparitions, une surmortalité. Est-ce qu'on peut s'attendre cette semaine, dans les 10 jours que nous vivons, à une surcharge dans les hôpitaux, voire donc une surmortalité à cause de cette vague de chaleur?
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, sur les canicules, le problème, c'est la durée de la canicule. C'est-à-dire qu'en 2003, c'était une canicule longue. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a des mesures, depuis 2003, qui sont des mesures d'urgence, qui permettent de mettre à l'abri les vulnérables. On a vu hein, dans les maisons de retraite, notamment dans les EHPAD, où il y avait eu énormément de victimes. On va climatiser, on va avoir des gestes de précaution, de prévention. Maintenant, évidemment, sur des organismes fatigués, sur des organismes malades, sur des organismes fragiles, au bout d'un moment, la durée en fait de ces canicules affecte les organismes. On voit aussi dans certains cas que on va avoir des risques liés à des comportements inappropriés. On voit encore des gens faire du sport en pleine chaleur. On va voir des gens, par exemple, plonger pour se rafraîchir avec des chocs thermiques. Donc tout ça fait qu'on peut avoir des accidents. La surmortalité en tant que telle, on va surtout la constater dans quelques mois. Et on a vu, par exemple, avec des épisodes de chaleur ces dernières années, que on enregistre en fait deux, trois mois après, des décès qui n'auraient pas dû avoir lieu, mais qui sont liés effectivement aux conséquences de ces canicules. Pour revenir à votre question, depuis 2003, on a mis en fait en place effectivement ces plans d'urgence. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le plan d'urgence, c'est finalement la réaction immédiate au problème. On ne traite pas les causes, on ne traite pas les racines. Et on voit bien là, et c'est ce que disait Christophe Cassou tout à l'heure, qu'on a maintenant un cumul d'événements qui fragilise le système dans son ensemble. C'est ce qu'il disait quand il disait systémique. Il a parlé par exemple des agriculteurs. Il faut rappeler que depuis le début de l'année, à cause du changement climatique, on a d'abord eu le gel sur les bourgeons, donc les viticulteurs touchés, les sécheresses, pendant la montée en rendement des céréales, les grelons, on a vu hein, ces grelons de la taille d'une balle de ping-pong, voire d'une balle de tennis. On a par-dessus aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup, mais les élevages, avoir des chaleurs aussi intenses sur des animaux, c'est très dangereux. Derrière, on a l'approvisionnement en fourrage, parce qu'avec la sécheresse, le fourrage, ça pousse pas. Et donc, si vous voulez, on a une fragilisation par crise successive qui est finalement invisible. Dans deux semaines, on parlera plus de la canicule. On parlera d'autre chose.
Oui. À vous entendre, on comprend bien qu'on est dans une logique de réparation plutôt que dans de la prévention. Si on se passe du côté des mesures à prendre, des mesures qui sont prises actuellement par les gouvernements, est-ce qu'il y en a qui sont incohérente selon vous avec l'idée de réduire les effets du changement climatique et si oui lesquels?
La dernière en date, c'est celle du terminal méthanier au large du Havre. C'est-à-dire que d'un côté on a une volonté et une nécessité, c'est pas Magali Regeza qui le dit, c'est le GIEC à partir de plusieurs dizaines de milliers d'articles, nous devons sortir des fossiles. Mmh. Quand je dis le GIEC, ça veut dire que les gouvernements, puisque le GIEC, c'est un ensemble de gouvernements, a dit, OK, il faut sortir des fossiles pour arrêter les émissions de gaz à effet de serre, ou pour les diminuer, ou pour arriver au zéro net en 2050. Dans le même temps, on construit, parce qu'il y a effectivement urgence énergétique, un terminal méthanier en contournant le code de l'environnement au large du Havre pour faire venir notamment du gaz de schiste, enfin des produits du gaz de schiste qui sont en plus absolument catastrophiques pour l'environnement. Donc en fait, on voit qu'on a aujourd'hui, parce qu'on n'a pas pris les mesures, parce qu'on n'a pas déjà engagé la transition énergétique, le premier rapport du GIEC, c'était il y a 32 ans. Donc quand même, ça fait un peu de temps. On est obligé aujourd'hui de prendre des mesures de réaction à l'urgence qui font qu'en fait, nous verrouillons nos émissions de gaz à effet de serre. Et en les verrouillant, nous verrouillons aussi notre dépendance à des énergies fossiles, donc nous réduisons notre souveraineté énergétique. D'où ensuite, et c'est le cercle vicieux, l'appel à la sobriété, parce qu'effectivement on n'a pas le choix, il va falloir baisser effectivement nos consommations, mais les baisser de façon urgente, donc derrière ce sont des conséquences énormes pour les populations qui sont déjà en précarité énergétique, et donc voyez en fait on a ces effets négatifs qui se compensent, et nous sommes en train malheureusement, parce que il n'y a pas eu, et je ne parle pas du gouvernement actuel, je parle de la succession de 30 ans de gouvernement et de politiques qui n'ont pas été mises en place ou insuffisamment au niveau français et européen, eh bien nous avons aujourd'hui un verrouillage de nos émissions. Il est absolument urgent de faire marche arrière, parce que sinon on va aggraver les choses au fur et à mesure.
Le terminal méthanier flottant, hein, qui est donc en cours d'installation au Havre, il est aussi mis en place pour faire face à une pénurie énergétique, Magali Regeza. Donc il y a un arbitrage qui a été rendu.
Tout à fait. Et plus on tarde, plus en fait on va se retrouver à devoir arbitrer entre la peste et le choléra. C'est-à-dire entre l'urgence immédiate, il faut évidemment absolument approvisionner le pays en énergie. Et de l'autre côté, Eh ben, si on fait ça, on verrouille. Et donc, en fait, c'est finalement une sorte de maladaptation, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va maintenant mettre en place des solutions, on va être obligé de choisir entre une solution immédiate réactive, parce qu'on n'a pas le choix, je le répète.
C'est du court terme.
C'est du court terme, mais si on ne le fait pas, on a une crise majeure. Et puis derrière, des investissements qui ne viennent pas parce que l'argent qu'on met d'un côté, on ne le met pas de l'autre. Et donc évidemment, on ne soigne pas le problème. C'est-à-dire en fait, on est condamné à soigner les symptômes de la maladie au lieu de s'attaquer aux causes structurelles. Et sauf que le problème, c'est qu'en ne s'attaquant pas aux causes structurelles et en soignant les symptômes, on aggrave la maladie. Et donc ce cercle vicieux-là, on va devoir en sortir parce que de toute façon, à un moment donné, et Christophe l'a dit, hein, l'augmentation des phénomènes extrêmes mais aussi des tendances font que les coûts vont devenir tellement importants que ça va devenir insoutenable et créer pour nos concitoyens des phénomènes de paupérisation, des phénomènes d'exclusion, des phénomènes de précarité. Ce que dit le GIEC, c'est très clair, l'inaction climatique coûte beaucoup plus cher que l'action. On est là dans de l'investissement qui doit être rationnel.
Christophe Cassou, quel est votre sentiment sur ce que vient de dire Magali Régazin? Est-ce que vous aussi, vous estimez que ce nouveau terminal méthanier flottant installé au Havre est une incohérence?
Oui, bien sûr, je rejoins totalement ce que vient de dire Magali Régazin. Ce que Magali nous montre, ce qu'elle vient de dire, c'est que en fait, le monde dans lequel on vit ou les manières dont on réagit sont aujourd'hui complètement obsolètes et complètement inadaptées et complètement insoutenables ou non durables au sens du GIEC. L'inaction n'est plus une option si on veut limiter les risques. Et c'est vraiment pas demain qu'il faut réagir. Là, c'est le géophysicien qui vous parle. C'est maintenant, car notre futur climatique dépend de nos actions et de nos choix d'aujourd'hui. On ne négocie pas avec les tonnes de CO2 que l'on émet dans l'atmosphère. Chaque tonne de CO2 additionnelle est une fraction de degré additionnel, un risque croissant, un risque menaçant. Derrière, il y a des souffrances, derrière, les inégalités sont exacerbées et derrière, évidemment, des morts. On est dans ce schéma-là. On est dans ce schéma aujourd'hui de transformation subie au gré des crises. C'est ce qu'on fait. On met des patchs. On construit un terminal méthanier pour pallier au déficit d'énergie que l'on prévoit pour cet hiver. Mais on n'a pas cette vision à grande échelle, cette transformation qui est choisie, qui est planifiée vers un futur où on sera beaucoup plus résilient. Et tout ça en s'appuyant sur les connaissances qu'on a déjà. Les connaissances géophysiques, on les a depuis 30 ans, comme disait Magali. Ça fait... J'ai regardé les tout premiers rapports du GIEC en 2001, donc c'est le deuxième rapport du GIEC il y a aujourd'hui 20 ans, où en fait les messages et les conséquences sur le canicule étaient déjà écrits noir sur blanc. Mmh. On a été dans ce déni de gravité, dans ce déni qui nous a conduit à l'inaction. Donc aujourd'hui, il est vraiment temps de réagir et il faut réagir vite avec une dimension collective.
Mmh. Mais la France a néanmoins baissé ses émissions de gaz à effet de serre depuis 2017 de 10%. C'est quand même un bon signe, Christophe Cassou.
Alors la France a baissé ses émissions de gaz à effet de serre de 10%. Alors ce chiffre comprend bien évidemment l'effet Covid. Il faut corriger. La France baisse ses émissions de gaz à effet de serre. Je pense que Magali pourra rebondir là-dessus.
Certes, ils ont sensiblement baissé en 2020, mais ils ont aussi baissé en 2021 par rapport à 2019, un petit peu.
Alors, nous sommes sur une baisse progressive des émissions de gaz à effet de serre, bien évidemment. Mais comme le souligne le Haut Conseil pour le climat, la France n'est pas du tout à la hauteur de ses engagements pour respecter les ambitions de l'accord de Paris. Il faudrait... avoir des ambitions qui sont 2 à 3 fois plus importantes qu'aujourd'hui pour rester dans les clous de l'accord de Paris. Et si l'on ne reste pas dans les clous de l'accord de Paris, les canicules que l'on vit aujourd'hui vont devenir vraiment, sont en fait un avant-goût du climat futur. Et ce climat futur, c'est pas en 2100, c'est 2050. Où la canicule que l'on vit aujourd'hui et que l'on va vivre ce week-end sera la norme en 2050.
Mmh. Il y a quand même une difficulté, c'est comment les scientifiques peuvent-ils se faire entendre des pouvoirs publics, des politiques, Magali Régazin. Vous faites partie du Conseil pour le Haut Conseil pour le climat.
Oui, alors le Haut Conseil pour le climat, effectivement, salue la baisse des émissions, mais aussi rappelle qu'effectivement, on ne va pas assez vite. On ne va pas assez vite, sachant en plus que l'Europe a augmenté ses objectifs, ce qui veut dire que la France va devoir encore augmenter ses objectifs. Donc, si vous voulez, on est là dans une situation un peu absurde où il faut aller plus vite, beaucoup plus vite. Et en réalité, aujourd'hui, ben, ces mesures-là, elles sont structurelles. Et donc, derrière, les scientifiques, notre rôle, c'est d'abord de faire de la recherche, d'essayer d'alimenter la recherche, de continuer à comprendre ces mécanismes. Au bout d'un moment, les décisions, c'est pas nous qui les prenons. Les décisions, elles sont prises par la société, elles sont prises par nos représentants. Et donc là, effectivement, on a des plans aujourd'hui. On a maintenant une première ministre qui est en charge de cette transition, de cette planification écologique. Je vous donne juste un exemple. Le président hier a annoncé un plan de sobriété. Mmh. C'est très important. Moi, j'aimerais bien qu'on annonce, et là, c'est en tant que citoyenne, un plan de transition. C'est très différent. Pour l'instant, effectivement, on est dans des plans qui permettent, comme l'a dit Christophe, de mettre des pansements. Et ils sont nécessaires. Quand vous avez une hémorragie, le premier but, c'est d'arrêter l'hémorragie. Simplement, derrière, si vous ne faites pas ce qu'il faut pour guérir l'hémorragie, ça va pas marcher. Et donc, si vous voulez, on a besoin, là, d'avoir très vite des mesures structurelles. Et on va pas se mentir, elles vont être douloureuses. Elles vont être douloureuses. Se passer des fossiles, c'est un sevrage qui ressemble un peu au sevrage tabagique pour ceux qui ont vécu ça. Nous sommes entièrement dépendants des énergies fossiles au quotidien, y compris dans nos vêtements, y compris dans notre façon de manger. Les fossiles sont partout, même quand on ne les voit pas. Et derrière, il y a d'autres éléments qui sont des émetteurs de gaz à effet de serre aussi. Donc comme le disait Christophe, à chaque fois qu'on va rajouter du CO2 dans l'atmosphère, on va augmenter la température. Et plus on augmente cette température, plus la probabilité de vivre ce que nous vivons aujourd'hui va être forte. C'est pas du tout du catastrophisme, c'est un fait. Exactement comme quand on dit la Terre est ronde, c'est un fait. Et nous, scientifiques, on aimerait bien se tromper. Je vous assure aujourd'hui que quand je vois mes collègues dans les laboratoires, ce qu'ils voient, ce qu'ils prévoient, ce que leurs modèles leur disent, ils aimeraient vraiment se tromper. Malheureusement, la transition est là. Juste pour... moi, j'ai vu ça dans les inondations. Je travaille depuis 15 ans sur les inondations. On a vécu exactement la même chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'évolutions. Simplement, il a fallu près de 40 ans pour que des premières alertes aux vraies politiques structurelles arrivent. On n'a plus 40 ans.
Christophe Cassou, qu'est-ce que vous pensez des blocages, des happenings, des opérations de coups de poing qu'on a vu d'ailleurs ces derniers jours, notamment sur le Tour de France, quand certains disent qu'il ne reste plus que 3 ans pour agir? Est-ce que c'est la bonne méthode, selon vous?
Alors, peut-être revenir sur ce 3 ans pour agir. Hein. Le GIEC n'a jamais écrit qu'il reste 3 ans pour agir. Le GIEC, dans ses conclusions, suggère pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré des actions qui soient immédiates, qui soient soutenues dans le temps et dans tous les aspects de la société. Un changement fondamental et structurel, comme l'a dit Magali. Donc c'est pas dans 3 ans. Sur ces actions, je pense que chacun a un rôle à jouer dans cette lutte contre le changement climatique. Et en particulier la jeunesse qui prend de plein fouet en fait ces enjeux climatiques. Parce que elle n'est pas aux manettes, hein, donc elle est dans les puissances, elle est dans l'angoisse, alors qu'elle va vivre ce changement climatique. Donc je comprends ces mesures de blocage dans la mesure ou de ces actions dans la mesure où elles alertent en fait sur une évidence, elles alertent sur ce mur dans lequel nous allons si nous n'agissons pas aujourd'hui.
Merci beaucoup à vous deux pour cette première partie d'émission. Je vous propose qu'on se retrouve tout à l'heure dans quelques minutes après le journal pour évoquer donc les solutions qui s'offrent aux citoyens, aux collectivités de toutes les tailles et puis aussi sur ce plan de sobriété annoncé par Emmanuel Macron hier. Il y a quand même tout à l'heure, on parlait dans le journal, Kathleen Comte nous parlait de Cazaux et de la violence des feux qui ont obligé les habitants à partir. Magali Regueza, est-ce qu'en termes d'aménagement du territoire, il y a des choses qu'on aurait pu faire avant?
Oui, alors effectivement, Cazaux, c'est très intéressant parce que ça montre d'une part que le changement climatique vient se rajouter à des événements qui étaient déjà là. Hein. Les incendies, c'est pas nouveau, mais là, on rajoute en fait une couche qui fait que derrière, effectivement, les conditions propices aux incendies sont plus importantes et notamment remontent vers le nord de la France. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on a des incendies comme Cazaux, on a des pompiers qui sont dans le nord et qui jusqu'à présent venaient aider leurs collègues du sud, qui sont fixés sur des incendies. On en a vu dans l'Oise, on en voit dans les Deux-Sèvres, il y a des départs de feu aujourd'hui partout. Ça, c'est le premier point. Donc, ça veut dire qu'il va falloir retravailler notre gestion de crise. Mais les phénomènes de feu ne sont pas simplement à l'origine du risque. Derrière, ce qu'il y a, c'est aussi une exposition. Donc, par exemple, des maisons qui ont été construites à des endroits où on n'aurait pas dû les construire. Donc aussi, des manières de localiser les activités sur le territoire, et on le voit sur d'autres types de risques, qu'on n'aurait pas dû mettre là ou qui se retrouvent à des endroits où ils n'auraient pas dû être. Tout ça, c'est ce qu'on appelle effectivement l'aménagement du territoire. Et donc, puisqu'on parle solution, on va devoir agir sur trois fronts. Le premier, c'est par rapport à l'existant, par rapport aux victimes aujourd'hui qui sont traumatisées. Quand on entend les témoignages de votre reportage, sa maison détruite, la peur, les flammes, c'est quelque chose de très très fort. Et on va avoir des gens qui vont souffrir énormément, sans compter les activités qu'il y a derrière. On va devoir revoir nos systèmes de gestion de crise, d'évacuation pour les rendre plus performants. Ça veut dire aussi derrière les systèmes d'assurance. Deuxième étape, ça veut dire éventuellement relocaliser, recréer, refaire des coupes, revoir comment on plante notre forêt, revoir aussi comment on crée des systèmes pour que les pompiers puissent arriver, pour qu'on puisse évacuer plus vite. Donc c'est les routes, c'est les localisations de l'eau, etc. Et puis sur un temps plus fort, on va devoir malheureusement se poser la question de l'habitabilité de certains territoires. C'est-à-dire jusqu'à quand ou jusqu'à quel coût est-ce qu'on peut maintenir des habitations et des activités, sachant que ces événements vont être amenés à se reproduire.
C'est-à-dire qu'il faut organiser d'une certaine manière le départ de certains logements, de certaines personnes dans des lieux trop exposés, près des forêts, sur le long des côtes également.
Exactement. Alors pas que des personnes, d'ailleurs des activités, des entreprises. Alors ça veut dire soit on peut délocaliser, soit on peut reconstruire, je pense aux inondations, autrement. Ça peut être également d'avoir des occupations temporaire, pas toute l'année. Et là, il va falloir le faire territoire par territoire. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir une articulation beaucoup plus fine entre le terrain, chaque territoire, parce que chacun a ses problématiques. On bouge pas les gens comme ça. C'est terrible de devoir quitter sa maison. Et puis, ça se fait pas en quelques temps. Ça se fait pas en quelques mois. Et puis derrière, le niveau national qui doit effectivement planifier. Et c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de planification.
Mais c'est un plan sur 10 ans, 20 ans?
Alors, pour un aménagement du territoire, une opération d'aménagement du territoire ou de réaménagement, c'est 10, 15 ans. C'est exactement le temps qu'on a jusqu'à 2030. Temps où effectivement, c'est de maintenant à 2030, c'est le temps qu'on a pour à la fois atténuer, c'est-à-dire réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour arriver à ce net zéro, on n'ajoute plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et puis s'adapter, c'est-à-dire faire face aux conséquences qui sont déjà là. Pour mémoire, le climat de la planète s'est réchauffé de 1,1 degré depuis 1900, en France c'est 1,7 degré, c'est considérable.
Christophe Cassou, hier, le président de la République, lors de son interview quasi traditionnelle du 14 juillet, a déclaré que nous devons rentrer collectivement dans une logique de sobriété. On va préparer un plan pour se mettre en situation de consommer moins. On va essayer de faire attention collectivement le soir aux éclairages qui sont inutiles. On va faire un plan pour les administrations publiques. On va faire un plan de sobriété, a dit Emmanuel Macron. Est-ce que c'est suffisant? Qu'est-ce que ça vous évoque, Christophe Cassou?
La question n'est pas de se demander si c'est suffisant. C'est absolument nécessaire aujourd'hui, hein. Et cette sobriété, ça doit, elle comprend vraiment ces ensembles de politiques, de mesures et de pratiques quotidiennes qui évitent des demandes d'énergie, mais également d'eau, d'artificialisation des terres, qui limitent tout cela, les matières premières, et tout ça dans les limites planétaires. Et les limites planétaires sont une contrainte non négociable. Donc on est obligé de se lancer dans cette stratégie de sobriété. La question est de savoir maintenant qu'est-ce qu'il y a derrière. Quelles vont être les dimensions collectives qui vont engager le pays dans cette sobriété. Cette sobriété doit, comme l'a dit Magali Regaza, doit s'inscrire dans un processus de transition, de transformation de nos sociétés vers des modes de vie bas carbone. Mmh. Donc il y a différents types de mesures, mais il faut bien faire attention que ces mesures doivent être cohérentes. Quand on parle de sobriété, par exemple, sur l'énergie ou sur la consommation de pétrole ou de gaz, il est absolument aberrant de faire porter la responsabilité sur les individus, la responsabilité de diminuer ces consommations sur les individus quand on ne prend pas, par exemple, des normes qui limitent le poids des voitures, quand on ne prend pas, par exemple, des décisions qui limitent la vitesse sur autoroute de 130 à 110, qui permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 16 à 20% sur les trajets concernés. Vous voyez, c'est un ensemble de mesures qui doivent être pensées de manière systémique, de manière transverse.
Justement, le GIEC a dressé la liste des choses à faire précisément et de façon urgente.
Alors, le GIEC a montré que les solutions sont là. Et qu'aujourd'hui, elles sont disponibles dès maintenant, dans chaque secteur. Et elles peuvent permettre de diviser par deux les émissions d'ici 2030. Donc le GIEC préconise ce triptyque en fait, pour mettre en place ces transitions, cette transformation sociétale qui est nécessaire. Le triptyque, c'est éviter, bifurquer et améliorer. Donc si on prend les transports, éviter de prendre sa voiture pour les petits trajets, transiter vers des mobilités bas carbone, vers des mobilités douces. Mais tout ça s'inscrit dans une politique qui favorise cette transition.
On a l'impression quand même que c'est par la coercition, peut-être, la question se pose de la coercition, est-ce que c'est par la limitation de vitesse imposée, en passant de 130 à 110 km/h par exemple sur les autoroutes, que les choses pourraient s'améliorer? Est-ce que ça serait une première mesure, Magali Regueza, à appliquer?
Alors, il y a plein de choses sur la coercition, il faut faire attention. On a besoin en fait de mesures structurelles, effectivement. Structurelles, ça veut dire d'abord qu'il va falloir changer à peu près tout, notre façon de produire, notre façon de consommer. Et comme le disait Christophe, l'individu, il arrive en bout de chaîne. Si demain, vous n'avez pas de transport en commun ou de mobilité décarbonée, vous pouvez dire aux gens, il faut faire ci, il faut faire ça, ils pourront pas le faire.
Donc c'est à l'État de montrer l'exemple?
Alors, d'abord, cohérence. Et ça, le rapport du Haut Conseil, du Haut Conseil pour le climat le dit, il faut qu'il y ait une cohérence entre les politiques, les besoins, les demandes. Il faut aussi qu'il y ait un sentiment de justice. Quand effectivement, vous, on vous demande des efforts considérables et puis qu'à côté, telle entreprise peut continuer à polluer, ça peut pas marcher. On peut pas non plus vous demander d'être sobre et de moins consommer quand toute la journée on vous invite à consommer. Quand par exemple vous voyez aujourd'hui que les panneaux publicitaires, ce sont des grands écrans LCD, etc., qui consomment énormément, c'est juste absurde. On a quand même vécu des années avec des publicités sur du papier. On pourrait revenir à des choses un peu, voilà. Est-ce qu'on a besoin d'avoir la lumière allumée toute la nuit dans des vitrines d'agences immobilières ou c'est peut-être pas tout à fait nécessaire. Donc il y a ce premier point. Le deuxième point, effectivement, les transformations structurelles, elles passent par à la fois de l'incitation, de l'aide, de la subvention et puis de l'autre, de la coercition. On prend le 110 km/h sur autoroute. Peut-être que si on expliquait simplement que ça fait perdre 7 minutes, 8 minutes par heure. Et ça permet, à côté de ça, d'éviter de faire des efforts sur d'autres registres. Peut-être que ça passerait un petit peu mieux. Peut-être qu'on pourrait dire, voilà, on a par exemple aujourd'hui des mobilités qui ne sont pas évitables. Nous avons des routiers, par exemple, c'est leur travail. Donc il faut investir là pour avoir peut-être des carburants plus décarbonés. Vous voyez ? Donc la contrainte, c'est la punition. Il faut quand même rappeler aujourd'hui que ce qu'on appelle l'écologie punitive, c'est le climat. Allez demander aujourd'hui à des agriculteurs, allez demander aujourd'hui à des industriels, allez demander aujourd'hui aux élèves qui ont passé leur brevet, allez demander aujourd'hui aux personnes qui s'occupent de personnes fragiles, qui sont en train de souffrir de la canicule, allez regarder dans les EHPAD, dans les hôpitaux, elle est là la punition. Et donc si vous voulez derrière, il faut effectivement qu'il y ait un sentiment de justice. Quand on nous parle de sobriété énergétique, on a aujourd'hui en France des personnes qui l'hiver vivent dans des appartements ou dans des maisons où ils ont froid. Et de l'autre côté, on a effectivement des gens qui chauffent à 25-26 avec les fenêtres ouvertes. Quand on va nous parler de contraintes, qu'est-ce qui va se passer si on ne la répartit pas équitablement? On sait qu'aujourd'hui, les 10% les plus riches de la population, voire les 1%, sont ceux qui consomment le plus. Or, on sait très bien que ces mesures de coercition, si on va par exemple mettre un prix au carbone, elles sont quasiment indolores sur ces populations. L'effet gilet jaune, qu'est-ce que c'était? C'était des personnes qui étaient dépendantes de la voiture parce que l'aménagement du territoire a fait qu'on a eu un étalement urbain qui fait que ces personnes sont totalement dépendantes de leur véhicule. Et donc derrière, vous leur dites, maintenant aujourd'hui, vous allez payer plus cher et on ne vous donne pas d'alternative. Mmh. On voit bien aujourd'hui que les 200 euros en plus d'essence sur certains budgets, c'est juste, mais infernal, ça veut dire que ça vous met en précarité. Alors que de l'autre côté, 200 euros quand vous êtes riche, et riche, ça peut là aussi, c'est relatif, hein. C'est une goutte d'eau. Donc c'est pour ça qu'on parle de transformation structurelle et que derrière moi je parle d'aménagement du territoire, parce que si nos villes, si nos territoires, je pense aux territoires ruraux, si la manière d'organiser les transports, la production, l'énergie n'est pas pensée au niveau national et territorial, ouais, on n'y arrivera pas.
Justement, ça passe donc à vous écouter, ça passerait par une prise de conscience plus forte peut-être des élus. Christophe Cassou, il me semble que le GIEC avait dressé un petit bureau pour l'entrée des députés à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines et que ça n'a rencontré absolument aucun succès. Enfin, un succès un peu mitigé quand même. Très peu de nouveaux élus sont venus se renseigner et parler d'écologie avec vos représentants, non ?
Non, pas très peu de nouveaux élus. Il y avait quand même 25% de l'Assemblée qui est venue nous voir avec une discussion.
C'est ce que j'ai lu dans les reportages, mais
Si, 154 députés sur 577 sont venus nous voir avec des discussions qui étaient vraiment intéressantes. Je voudrais juste rebondir sur ce mot coercitif et sur ce mot punitif. Comme le dit Magali Regaza, c'est le changement climatique qui est punitif. Demandez aux habitants de Cazaux aujourd'hui qui sont obligés de fuir si les mesures qui doivent être prises pour lutter contre le changement climatique sont punitives. Quand on parle de 130 à 110, c'est dérisoire par rapport à ce que vivent ces événements, par rapport à ce que vivent ces habitants. Quand on parle des territoires, il y a une semaine, j'étais dans le Béarn et dans le Pays Basque. Des agriculteurs sont venus me voir avec les larmes aux yeux parce qu'ils sont en train de tout perdre. Hein. Agriculteurs qui avaient transité en agroécologie, parce qu'ils sont en train de tout perdre par la multiplicité des coûts climatiques. Et parce que ces agriculteurs-là s'inscrivent dans une dimension qui est beaucoup plus longue, une dimension à long terme. Hein. Ils vont gagner plus tard, mais aujourd'hui, ils sont un petit peu plus vulnérables. Donc, c'est à la puissance publique d'aider à ces transitions. C'est à la puissance publique de réduire ces vulnérabilités à court terme. Parce qu'on sait qu'à long terme, les solutions qui sont adoptées en agroécologie, en gestion forestière, sont bien meilleures et nous rendront beaucoup plus efficaces, beaucoup plus résilients, beaucoup moins vulnérables au changement climatique. Donc, vous voyez que c'est vraiment un ensemble de politiques qui est important. Et quand je vais dans les territoires, parce que je suis en Occitanie et je parcours beaucoup les communes rurales, j'ai participé à énormément d'échanges dans les communautés de communes. Chez les élus, il ne faut pas généraliser. Il y a vraiment cette volonté de bouger. Mais les élus aujourd'hui sont dans une demande de feuille de route, une demande de méthode, une demande de cohérence qui les permettent de bouger. Juste un exemple, aujourd'hui, on subit des pénuries d'énergie. J'étais il y a 15 jours dans une communauté de communes qui discutait d'éteindre les éclairages la nuit. D'éteindre les éclairages la nuit pour une commune, ça coûte très cher. Hein. Et donc du coup, considérant le budget des communes, hein, la mesure n'a pas été adoptée.
Merci beaucoup.
Où est-ce qu'il y a la cohérence ici? Hein. Et c'est vraiment à ce niveau-là. Il faut que l'État, au-delà des annonces, mettre en place une cohérence du national vers le local. Parce que les élus sont prêts, la population est prête, contrairement à ce qu'on lit, contrairement à ce qu'on peut voir écrit. Le changement climatique est subi et perçu par l'ensemble de la population.
Merci beaucoup en tout cas Christophe Cassou d'avoir été avec nous ce matin pour évoquer ces solutions concrètes à apporter face au réchauffement climatique. Je rappelle que vous êtes l'un des co-rédacteurs du 6e rapport du GIEC et vous êtes directeur de recherche au CNRS et que vous étiez en compagnie dans le studio de ces matins d'été de France Culture avec Magali Regaza qui est géographe, membre du Haut Conseil pour le Climat. Merci aussi à vous et à bientôt.